Germania.
France Inter, le 18-20. Fabienne Sinthès.
Un jour dans le monde, ce soir a lu le dernier rapport d'Amnesty International.
The first flight will leave in 10 to 12 weeks. And the success of this deterrent doesn't rest on one flight alone.
C'est Rishi Sunak qui parle, le Premier ministre britannique. Il dit le premier vol partira dans 10 à 12 semaines. Le succès de cette dissuasion ne repose pas sur un seul vol, il repose sur un processus continu et implacable d'expulsion réussie et permanente vers le Rwanda. Fermez les guillemets. Bonsoir Agnès Callamard.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale d'Amnesty International avec nous depuis Londres. On a choisi cet extrait, Rishi Sunak, Premier ministre de Grande-Bretagne, donc pour commencer cet entretien, Agnès Callamard, avec sa loi qui renvoie donc les migrants au Rwanda. Vous pointez d'ailleurs le manquement du Royaume-Uni vis-à-vis des migrants et demandeurs d'asile, là. Et depuis la rédaction du rapport d'Amnesty, on est passé à un nouveau cap. Qu'est-ce qu'on en dit de cette loi, Amnesty International ?
On en dit que c'est une honte, c'est une tache sur la réputation de la Grande-Bretagne. On a même comparé le Parlement britannique qui a adopté cette loi à une scène de crime. Mmh. Donc je pense que ça résume bien. C'est une loi liberticide, c'est une loi qui déshumanise les demandeurs d'asile et les réfugiés. Elle sape le système juridique en place dans la mesure où elle n'accorde aucun rôle aux tribunaux ou aux juges britanniques. Elle porte atteinte aux obligations internationales. La liste est longue de tout ce qu'elle enfreint, cette loi.
Dans le résumé de votre rapport, Agnès Callamard, vous dites même que c'est retour vers le futur. Vous dites on est revenu quasiment en 1985 si on prend comme base le nombre de personnes qui vivent aujourd'hui en démocratie dans un pays où s'exerce l'état de droit. Mais ce que vous dites Exactement. Particulièrement, c'est jusqu'à quel point il y a une régression. Et pardon de le dire comme ça, mais quand il y a régression dans un pays comme l'Iran ou comme l'Afghanistan, on le déplore évidemment, mais on a du mal à s'en étonner. Ce qui est beaucoup plus violent, c'est ce que vous pointez dans des pays proches, dans des pays démocratiques, comme le Royaume-Uni précisément, mais pas seulement.
Mais pas seulement, exactement. Donc, à l'heure actuelle, les personnes qui vivent dans des démocraties, leur nombre est retombé à celui de 1985, c'est-à-dire avant la fin de la guerre froide, avant la chute du mur de Berlin. Donc, il faut bien que l'on comprenne qu'il y a eu un retour en arrière, mais absolument dramatique, et ce retour en arrière ne peut pas être que le fait des pays entre guillemets autoritaires. Donc, les pays soi-disant démocratiques ont adopté de plus en plus des pratiques autoritaires, on le retrouve en Grande-Bretagne, on le retrouve en France, on le retrouve en fait en règle générale en Europe, où la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté d'association, toutes ces libertés fondamentales sont mises à mal. Donc pour nous, c'est un retour absolument dramatique que l'on veut souligner, mais ce n'est pas le seul. Donc dans le rapport, nous disons aussi que malheureusement, le retour en arrière ne s'est pas arrêté à 1985. Il est allé bien au-delà, il est allé jusqu'en 1948.
Est-ce que, comment on explique, Agnès Callamard, que, y compris, donc vous le dites, dans les démocraties, le sentiment qu'on a, c'est qu'on se permet des choses aujourd'hui qu'on ne se serait pas permis de faire avant, au nom précisément de la démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé, pas seulement cette année, on ne peut pas le dire comme ça, ces dernières années, pour que même dans nos pays, on s'autorise ce genre de choses, à votre avis ?
Ce qu'on s'autorise de nos jours, c'est la justification de ce qu'on n'aurait jamais osé justifier. C'est la revendication de ce qu'on n'aurait jamais osé revendiquer. Les violations ont toujours eu lieu dans le passé, même sur la liberté d'expression, etc. À l'heure actuelle, même dans les pays démocratiques, ceux qui violent le droit international établi après 1948 revendiquent leur droit de violer ce droit. C'est comme si tout ce qui avait construit le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale, on était en train de le rejeter. C'est cette revendication des violations qui est la plus grave. Il n'y a plus de Il n'y a plus de ligne rouge à l'heure actuelle.
On va aller évidemment dans un petit instant, notamment vers Israël et sur des problèmes de cette envergure-là. Je voudrais pointer un tout petit peu sur la France quand même. Ce qui vous inquiète particulièrement, pas seulement, mais notamment, c'est cette fameuse surveillance algorithmique. La technologie, semble-t-il, a de quoi nous faire peur. En tout cas, vous craignez la manière dont les pays sont en train de s'en emparer. Nous, en France, ce qu'on dit, c'est que nous avons des garde-fous, que ce qu'on met en place, notamment pour les JO, ne sera pas forcément pérenne. Est-ce que ce que vous dites, vous, en creux, c'est quand on a commencé, on ne s'arrête jamais ?
C'est exactement ce que nous disons et nous en avons la preuve, puisque dans le passé, quand on a adopté des lois ou des pratiques pendant le Covid, par exemple, ou des pratiques contre le terrorisme qui se comprenaient à ce moment-là, ces pratiques-là, malheureusement, deviennent se pérennalisent et s'intègrent au système juridique. Donc, vous parlez là de la vidéosurveillance assistée par l'intelligence artificielle. C'est ce que souhaite mettre en place, c'est ce que va mettre en place la France pour les JO. Il s'agit d'une première dans l'Union européenne. C'est quelque chose qui n'a pas été accepté au niveau de l'Union européenne et ça va étendre de manière excessive les pouvoirs de police en élargissant l'arsenal des équipements de surveillance. C'est un processus que nous retrouvons à l'échelle mondiale et que nous mettons aussi en avant dans ce rapport. La technologie, malheureusement, non régulée, est devenue source d'impunité, est devenue source de haine, de division, de discrimination. Et en 2024, rappelons que c'est l'année où le plus grand nombre d'êtres humains vont aller voter. En 2024, le fait que nous ne contrôlons pas cette nouvelle technologie, que les big tech, les grandes compagnies ne contrôlent pas les médias sociaux et leurs plateformes, ceci signifie que l'intégrité des élections est en jeu. Que nous assistons à un processus extrêmement dangereux dans la mesure où l'information peut être erronée,
y compris les nôtres, construit vous dites, des choses. Nous, on vote à la fin de le mois prochain. Est-ce que vous dites, y compris les nôtres, nos propres élections, les élections européennes, par exemple, pourraient être erronées si on n'y prend pas garde ?
Leur intégrité sera remise en cause. Ça ne fait aucun doute. Dans la mesure où on ne contrôle pas, on ne régule pas ces nouvelles technologies et que les compagnies elles-mêmes ne contrôlent pas le contenu sur leur plateforme. Un contenu qui peut arriver à des violences ethniques, à des morts d'individus, à des discriminations, à des attaques contre, par exemple, les femmes, les activistes, etc., etc. Donc c'est extrêmement grave.
Allons vers Israël, Agnès Callamard, si vous le voulez bien, en deux temps, si je puis dire, parce que nous sommes justement, nous en France, puisque nous y sommes, en plein milieu en ce moment d'une polémique au sujet de la convocation de Mathilde Panot, qui est la chef des Insoumis à l'Assemblée, pour apologie du terrorisme. Est-ce que vous dites, et ça commence là, à Amnesty, qu'il y a, chez nous, mais pas seulement, restrictions aux formes d'expression, et particulièrement vers les Palestiniens ? Est-ce que vous le dites comme ça ?
Oui, nous le disons, tout à fait. Ce n'est pas seulement en France, on le retrouve. C'est un phénomène que nous avons retrouvé à l'échelle internationale, y compris aux États-Unis à l'heure actuelle. L'activisme en faveur de la cause palestinienne, même l'activisme pour demander le cessez-le-feu, a fait l'objet de censures qui, selon nous, étaient disproportionnées. Bien sûr, il faut des lignes rouges à toute liberté d'expression, qui soient des lignes rouges qui sont en lien avec l'apologie de la haine, mais ces lignes rouges n'ont pas été dépassées dans la plupart des cas que nous connaissons, et il y a vraiment une attaque disproportionnée contre toute prise de position qui se veut pro-palestinienne à l'heure actuelle.
Vous allez aussi de l'autre côté du spectre, du côté d'Israël, et ce que vous dénoncez, c'est ce que vous appelez les signes avant-coureurs d'un génocide, donc d'Israël vers Gaza. Oui. Vous n'êtes pas les seuls et vous n'êtes pas les premiers, mais ce que vous incluez à l'intérieur, ce sont les Occidentaux d'une manière générale pour leur inaction, au-delà même, surtout les États-Unis pour leur complicité. Est-ce que vous dites aujourd'hui, s'il s'avère, et je dis s'il s'avère parce que le mot génocide, c'est une notion juridique qu'il faut démontrer juridiquement, s'il s'avère qu'il y a génocide, diriez-vous que les États-Unis sont complices de génocide ?
Je dirais que de toute façon, même à l'heure actuelle, les États-Unis ne mettent pas en œuvre leur obligation de prévenir le crime de génocide. La Cour internationale de justice a bien mis en avant le fait qu'il y avait des risques extrêmement sérieux de génocide et elle en a appelé à la communauté internationale de prendre toutes les mesures que leur demande la Convention contre le génocide afin de mettre un terme à ces risques. C'est le contraire qui s'est passé. Donc nous assistons à des violations incroyables du droit international par Israël, des violations qui sont revendiquées par Israël au nom de l'autodéfense ou au nom de la lutte contre Hamas, une lutte contre Hamas qui est maintenant devenue une campagne de punition collective contre l'ensemble des Palestiniens. Ces violations-là ont été plus ou moins entérinées par les États-Unis dans la mesure où ils ont échoué à dénoncer ces violations et qu'ils ont apporté leur soutien à Israël, y compris dans le Conseil de sécurité. C'est pour ça que nous disons que nous retournons vers 1948. Mmh. La Convention contre le génocide, la Convention de Genève pour la guerre, le Conseil de sécurité, tout cet apparatus qui avait été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale est en train de disparaître, d'être anéanti devant nos yeux.
Agnès Callamard, vous êtes secrétaire générale d'Amnesty International. Je pense à votre autre vie. Vous étiez aux Nations Unies. Est-ce que vous dites aujourd'hui que le droit international est en train de perdre de sa valeur ?
Absolument. Il est en train de perdre sa valeur parce que les grandes puissances sont en train de retirer sa valeur au droit international. J'ai parlé des États-Unis, mais j'aurais pu aussi bien parler de la Russie. La Russie qui a agressé l'Ukraine depuis 2022, qui commet une violation de la Charte des Nations Unies et qui revendique le droit de violer la Charte des Nations Unies. Je veux bien mettre l'accent là-dessus. Les violations, on les a vues dans le passé. Il faut qu'on comprenne que nous rentrons là dans une nouvelle ère. Mmh. La revendication des violations, ça veut dire que ces États-là, les États les plus puissants au monde, sont en train de nous dire, eh ben, toutes ces règles, on s'en fiche. Tout ce qui a été écrit et mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, on s'en fiche. Ça ne sert pas nos intérêts, donc nous, on revendique de les violer. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle.
Alors pourtant, quand même, et ça on l'a appris cette semaine, il y a des mandats d'arrêt de la CPI qui pourraient arriver jusqu'en Israël. Oui. On a bien vu que Benjamin Netanyahou, certains de ses ministres étaient visés. On avait d'ailleurs une certaine crainte. Est-ce que ce sont des démarches qui, pour le coup, sont soutenues par Amnesty International, voire souhaitées par Amnesty International ?
Absolument. Il faut la situation que je décris a plusieurs couleurs, a plusieurs teintes. Donc depuis un an, on assiste quand même à des tentatives de remettre le droit international à la place qui lui revient. Donc on a vu par exemple l'Afrique du Sud qui est allée devant la Cour internationale de justice. Nous avons vu les demandes faites auprès de la Cour pénale internationale qui va peut-être avoir d'ailleurs des mandats d'amener. Maintenant, il faut qu'ils soient mis en œuvre. La Cour internationale de justice a mis deux décisions. Elles n'ont pas été mises en œuvre. Elles ne sont pas mises en œuvre par Israël. Elles ne sont pas mises en œuvre par les États-Unis. Il y a un mandat d'amener contre Poutine. Monsieur Poutine, il a pu voyager dans deux ou trois pays. Ces pays-là n'ont pas mis en œuvre le mandat d'amener. Donc, oui, nous avons des institutions. Nous essayons de préserver leur rôle. Nous essayons d'insister qu'il faut préserver ce qui a été mis en place en 1948. Mais les États les plus puissants se doivent de participer. Les architectes, d'ailleurs. Ce sont les architectes de ce système qui sont en train de le détruire.
En juste un mot de conclusion, Agnès Callamard, est-ce que vous pouvez nous donner quand même un motif de nous réjouir ou vous ne le trouvez pas dans votre rapport ?
Non, je trouve toujours un motif pour rester positive et je vais vous dire où il se trouve. Il se trouve dans l'activité, dans l'activisme de la société civile. En 2023, la société civile, c'était une société courageuse. C'est une société qui est descendue dans la rue, quelle que soit la répression. Ce sont des jeunes, des moins jeunes qui ont demandé la protection pour les Palestiniens, qui demandent la libération des otages israéliens. Tout ce mouvement de solidarité qui se lève à travers le monde, c'est ça, pour moi, la chose la plus positive qu'il faudra aussi retenir de 2023.
Et on le retient également, Agnès Callamard, merci beaucoup. Vous êtes secrétaire générale d'Amnesty International avec nous en direct de Londres. Merci beaucoup.